Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 3 minutes et vous êtes sur votre radio, sur Europe 1. Je vous accompagne jusqu'à 1h du matin avec toute l'équipe de la Libre Antenne, Florian, Natacha, Jean-Philippe, Jean-François, Philippe, pardon. Et je suis très content d'être avec vous, mais ça vous le savez déjà. Nous accueillons maintenant Stella au 3921. Bonsoir Stella.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir aux auditeurs.
Alors, dites-moi, c'est là ce qui vous amène.
Alors, ce qui m'amène, c'est pour parler de l'histoire de fin de vie de mon papa.
Oui.
Voilà. Je fais ça dans un... Enfin, cette fin de vie, elle l'invite à plusieurs questionnements, à l'écoute des patients, aux droits des patients, à l'évaluation de la douleur, à la connaissance de la loi Clay-Leonetti et aux conditions de fin de vie à domicile. Mmh. Voilà, mon papa a été atteint de la maladie de Parkinson atypique, c'est-à-dire qu'il résiste aux médicaments, à tous les traitements de cette maladie. Et il a été diagnostiqué quelques années plus tard de la maladie à corps de Lévis. C'est une maladie un peu comme la maladie de Charcot, un peu plus connue. Le patient termine ses jours prisonnier de son corps, c'est-à-dire qu'il ne peut s'exprimer ni physiquement ni verbalement.
Oui.
Il est totalement prisonnier de son corps. Mon papa a commencé à être malade à l'année 2000, en année environ 2000.
Quel âge avait-il ?
Il avait 58 ans quand il a arrêté de travailler. Il a été obligé d'arrêter de vendre son affaire.
Oui.
Et en 2006, il a été diagnostiqué Parkinson, donc un petit peu plus tard, et après maladie à corps de Lévis. Et pour dérouler un peu vite son histoire, en 2011, il y a eu un tournant. Donc il a fait des graves infections pulmonaires, une fausse route, il s'est retrouvé entre la vie et la mort. Il a été hospitalisé pendant 3 mois.
Oui.
Et à partir de là, donc, les médecins nous ont indiqué une fin de vie estimée à 6 mois. Donc, mes parents s'étaient promis, enfin, ma maman avait promis à son mari qu'il puisse finir ses jours à domicile. Donc, vu le pronostic de 6 mois, ma maman a décidé de le ramener à domicile. Voilà. Elle a consacré, enfin les 6 mois, ça s'est transformé en 6 années.
Oui.
Dû notamment aux soins que ma maman a apporté à son mari. Elle a consacré énormément d'énergie tout son temps. Voilà, elle a passé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec lui.
Oui.
Quand il est ressorti de l'hôpital, il a été alimenté par sonde gastrique parce qu'il ne pouvait plus s'alimenter normalement par risque de fausse route.
Mmh.
Ensuite, sa maladie a continué à évoluer. Donc, on arrivait un petit peu encore à le faire marcher en le tenant, en faisant à peu près 300 mètres autour de la maison au début. Ensuite, uniquement un petit peu dans le jardin. Petit à petit, vers les années 2015, il ne parlait plus trop. Les phases de présence, enfin, ces phases de présence devenaient de plus en plus rare, c'est-à-dire qu'il ne parlait quasi plus. Plus les années passent, si vous voulez, malheureusement, plus le patient, c'est triste à dire, mais il devient un petit peu à l'état de légume. Ses muscles ne fonctionnent plus, parce que c'est une maladie qui touche les muscles.
Cette maladie, nous sommes d'accord, c'était là que nous n'en connaissons pas l'origine.
Non, je crois pas.
D'accord.
non. Et il y a des gens, lui c'était vraiment Parkinson atypique, maladie à corps de Lévis, donc c'était vraiment un cas vraiment spécial. Et le neurologue a toujours dit, s'il a vécu aussi longtemps, c'est par les soins apportés par ma maman. Elle a pris des ergothérapeutes, enfin vraiment beaucoup d'intervenants, et c'est ce qu'il a maintenu. Et ils l'ont beaucoup mobilisé, appris un petit peu à remarcher, à reparler. Et voilà, vers les années 2015, quand on voyait la neurologue, on la voyait deux fois par an. Et en 2015, elle nous disait, bah, il y en a encore pour, enfin, dans six mois, je ne le reverrai plus. Et je ne veux pas trop m'attarder sur l'aggravation de ses symptômes. Par contre, en 2016, là, ça s'est vraiment aggravé. Il est vraiment devenu prisonnier de son corps. Donc, il avait la tête penchée sur le côté.
Ouais.
Et là, il était vraiment quasiment sans réaction. Quand on lui parlait, il avait vraiment pas beaucoup de moments de lucidité. On lui disait bonjour. Si on avait de la chance, il répondait, mais c'était vraiment pas fréquent. Et son état s'est aggravé en avril 2017. Donc, l'équipe médicale, parce qu'on avait fait appel à une HAD déjà en 2014, parce que son état était trop grave, enfin, était trop lourd à gérer, il fallait une HAD. Et en 2017, donc en avril 2017, son état, l'équipe médicale a décidé de le mettre en protocole de fin de vie. Et jusque-là, on a eu une super équipe, on a eu des super soins, tout le monde était en concertation les uns avec les autres, enfin, c'était vraiment très bien.
Oui.
Le problème, c'est qu'en avril 2017, donc ils se sont dit, bah, voilà, il est vraiment en fin de vie et il faut partir sur un protocole de fin de vie. Donc, protocole de fin de vie, c'est un protocole hein, qu'on suit. Ça consiste en l'arrêt des traitements et en attendant que, bah, que le décès arrive. Et donc, ils ont arrêté les traitements liés à la maladie en laissant les antalgiques.
Oui.
Quelques jours après, mon papa a fait une fausse route. Donc, on était largement habitués à une fausse route. Hein. C'est... Quand il déglutit, il s'étouffe avec sa salive. Donc, on avait un appareil à domicile pour pouvoir aspirer au cas où ça produise. Donc, on était... Enfin, on le faisait hein, régulièrement, ça arrivait. Mais là, ils ont décidé à ce moment-là d'arrêter l'alimentation entérale, donc par sonde gastrique, parce qu'ils avaient peur qu'il décède par étouffement à cause des fausses routes.
Mmh.
Et donc, mi-avril 2017, arrêt des traitements, arrêt de l'alimentation. Un mois après, mon papa était toujours vivant. Là, mon papa ne pouvait pas s'exprimer. On ne pouvait pas savoir mesurer l'état de la douleur.
Oui.
J'ai oublié de préciser aussi une chose qui est importante. En juin 2016, moi, j'étais persuadée qu'il souffrait. On l'avait emmené chez la neurologue. Et quand on lui a posé la question, s'il souffrait ou pas, elle a vu, suite aux mobilisations, que mon papa souffrait. Elle l'a mis directement sous morphine. Ça, c'est super important parce que l'équipe médicale ne s'était pas aperçue que mon papa avait besoin de morphine. En avril 2017, donc quand tout a été arrêté, l'alimentation, les traitements, un mois après, en mai 2017, mon papa était toujours vivant. Donc un mois sans être alimenté, vous prenez des photos des camps de concentration. Moi, je les ai vues en direct. Voilà, j'ai jamais connu la guerre. Mais les photos, mon papa, c'était les camps de concentration. Je n'avais jamais imaginé qu'on pouvait avoir de la graisse au niveau des tempes. On voyait les os du visage. Au niveau du ventre, ça faisait comme une... J'expliquais que c'était une caverne, une grotte. Tellement il n'y avait plus. C'était la peau sur les os. La peau était super fragile. Et mon papa, de temps en temps, râlait, gémissait, s'agitait. Il y a des pauses respiratoires de plus en plus fréquentes. Donc, dès qu'il y avait des pauses respiratoires, on nous disait « Attention, le décès risque de survenir cette nuit. » Donc, mentalement, vous devez... Vous êtes préparé, mais vous savez, mais bon, c'est juste horrible de se dire bah, ça va arriver cette nuit, donc bah non, c'est le lendemain matin, bah, non, c'est pas arrivé, donc voilà, vous attendez, ça recommence trois jours après. Et en mi-mai, un médecin remplaçant de l'équipe médicale d'HAD est venu et je lui ai demandé s'il était sûr que mon papa ne souffre pas. parce que je voulais être sûre que mon papa ne souffre ni psychologiquement, ni physiquement.
Bien sûr.
Ce médecin m'a dit, on ne peut pas être sûr.
Stella, je vous arrête. On va faire une petite pause et puis on va se retrouver tout de suite, si vous le voulez bien. D'accord ?
Oui, merci.
À tout de suite, Stella.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h14, vous êtes sur votre radio sur Europe 1 et c'est votre libre antenne qui s'achèvera tout à l'heure à 1h du matin. Mais en attendant, nous sommes ensemble. Nous parlons avec Stella qui évoque la fin de vie de son père et qui nous parle de, eh bien, de cette maladie, de la maladie Parkinson, mais une forme très spéciale et assez rare de cette maladie. Et en fait, je ne sais plus comment on met un... vous voyez, je ne trouve plus mes mots. Comment appelle-t-on, Stella, ce que l'on met en fin de vie avec les médecins, ensemble?
Une sédation?
Un protocole, c'est ça?
Ah oui, un protocole de... Bah, là, ils ont appelé ça un protocole de fin de vie.
D'accord, excusez-moi.
Oui, il n'y a pas de mal.
Donc vous étiez en train de me dire que vous étiez intimement persuadée que votre père souffrait physiquement. Hein.
Oui. Psychologiquement, on ne peut pas savoir.
Oui.
Voilà. Parce que on parle aussi de la souffrance psychologique. Hein. Il n'y a pas qu'une souffrance physique. Oui. Je me dis que se voir dans cet état avec des trous dans le corps, ça ne doit pas être super agréable.
Mmh.
Et au niveau physique, il s'agitait. Donc, je ne vois pas comment il ne pouvait pas souffrir. Pourquoi c'est râle, s'il râlait, c'est pour moi, il souffrait.
Mmh. Vous m'avez dit que...
Il ne râlait pas 24 heures sur 24. Hein.
Mmh. Vous m'avez dit qu'on avait arrêté aussi tous les traitements.
Oui, sauf les antalgiques. Le paracétamol, les patchs de morphine étaient toujours présents.
D'accord.
Il y avait des patchs de morphine depuis un an. Donc mmh. ça n'a pas été arrêté. Et j'ai demandé au médecin s'il pouvait me confirmer à 100% que mon père ne souffre pas. Donc ça, il ne pouvait pas. Selon lui, il pensait que mon papa ne souffrait pas. Comme je lui ai dit, vous n'êtes pas spécialiste, hein, vous n'êtes pas neurologue. Donc, il y a un an, personne ne s'est aperçu de la souffrance de mon papa. Comment là, vous pouvez vous permettre de dire « je pense qu'il ne souffre pas ». Comment on peut laisser quelqu'un, au bout d'un mois, sans être alimenté, en train de mourir, et en n'étant pas sûr qu'il souffre ou qu'il ne souffre pas. Donc, le médecin, pour lui, donc je lui ai demandé si on pouvait mettre en place une sédation par rapport à la loi actuelle et éthique de 2016, et si on pouvait augmenter les antalgiques, donc les anxiolytiques pour oublier, au niveau psychologique, et la morphine, pour vraiment être sûr qu'avec une dose de morphine augmentée, pour être sûr qu'il ferme les yeux et qu'il ne se réveille pas et qu'il ne sente rien. Et pour lui, ça lui posait un problème éthique et médico-légal.
Pourquoi cela?
Parce que pour lui, il pensait que augmenter ses traitements, ça risquait de provoquer la mort.
D'accord.
Et que ce n'était pas la loi Clay-Leonetti.
Voilà. Oui, oui, oui.
Alors j'avais beau lui dire, mais vous avez arrêté l'alimentation, donc mon papa, il va mourir. Il va pas. L'hydratation était maintenue, c'est pour ça qu'il est resté aussi longtemps. Là, on a tourné en rond, on s'est littéralement discuté. À partir de là, on est rentré, surtout moi, vraiment en conflit avec eux.
Oui.
Donc il y a eu des propos.
Pas très sympa les uns envers les autres.
Pas très sympa les uns envers les autres, surtout venant de moi, effectivement, hein, je le reconnais.
Mm-hmm.
Je leur en voulais énormément. Suite à ça, en ma présence, je n'étais plus acceptée dans la maison, sinon le médecin ne voulait pas venir. Moi, je ne voulais pas le voir non plus. On n'a pas eu le choix, on a été obligé de garder l'HAD, parce que par l'HAD, vous avez des moyens médicaux que vous ne pouvez pas vous passer, par exemple les lits à matelas d'air et tout ce qui s'ensuit, une assistance 24 sur 24, donc là vous n'avez pas le choix.
Surtout pour une situation telle que celle-là, c'était...
Voilà, donc je vais demander d'appeler la neurologue et de demander conseil à des spécialistes, donc c'est ce qu'il a fait. Malheureusement, quand il a demandé conseil, les soins palliatifs nous ont proposé de venir, enfin, nous ont proposé d'hospitaliser mon papa. Nous, on a refusé parce qu'il n'avait plus que la peau sous les os, il était quasi pas transportable. On a demandé que la sédation soit mise en place à domicile, et ça, c'est légal, et ça, c'est la loi, c'est, voilà, c'est comme ça. À partir de là, tout le monde a refusé, et le médecin nous disait non, c'est de l'euthanasie. Voilà, vous voulez euthanasier votre père, et la maman lui dit vous euthanasiez votre mari. Je dis, comment on peut, un médecin peut dire vous voulez euthanasier votre mari à une dame qui s'en est occupée pendant 6 ans, nuit et jour, 24 heures sur 24. Parce que les dernières années, elle ne pouvait pas s'absenter plus de 2 heures parce que c'est elle qui passait les médicaments via la sonde. Parce qu'on ne pouvait pas faire intervenir des infirmières toutes les 2 heures. Mmh. Et les auxiliaires de vie n'ont pas le droit de passer des médicaments par la sonde. Comment un médecin peut dire ça à une dame dont son mari est en train de mourir?
C'est un positionnement particulier. Alors, bien évidemment, vous savez, souvent, je donne mon avis sur pas mal de choses. Et il est vrai que cette problématique-là est très intime. Mais là, il s'agit du positionnement d'un médecin. Et ce que vous me racontez, si cela m'était arrivé, bien évidemment, je trouverais ça totalement aberrant d'être sur un positionnement tel que celui-ci devant un homme qui est en train de partir la seule solution, c'est de le soulager et de penser à vous aussi, à sa fille, à son épouse, et de soulager tout le monde. Parler de la loi à ce moment-là, tout médecin qu'il est, me paraît...
C'est moi qui ai abordé question de la loi pour avoir la sédation.
D'accord, mais donc c'est vous qui l'avez abordé, mais alors il vous répondait que donc c'était hors la loi, c'est ça?
Voilà.
Et il avait peur donc de quoi? D'être inculpé, d'être embêté après?
Voilà. Il avait excessivement peur. Alors au départ, quand ça s'est passé, j'ai pas compris. Il m'a dit, je suis un an de retraite, j'ai pas envie que vous m'emmeniez au tribunal. Je lui ai répondu, pourquoi vous me dites ça? J'ai pas du tout compris. J'ai compris par la suite qu'en fin de compte, effectivement, il avait peur de se situer dans un cas d'euthanasie. Pour lui, c'était un cas d'euthanasie. Le problème, c'est que ce n'était pas, et c'est ce que je voudrais dénoncer et surtout faire passer comme message, ce n'est pas un cas d'euthanasie, c'était une demande de sédation tout à fait légale. Et suite à ça, mon papa est quand même resté encore un mois de plus avant qu'une réunion collégiale soit organisée, parce qu'il y a quand même des infirmières qui ont dit à l'équipe HAD, il a des escarres, parce que l'HAD ne regardait pas sous les pansements. L'hospitalisation à domicile.
D'accord, très bien, ok. Parce que pour tous ceux qui nous écoutent, c'est important que tout le monde comprenne. Pardon.
C'est des hospitalisations à domicile, donc les médecins viennent à domicile.
D'accord.
Et le problème, mon papa avait un trou dans le menton, un trou dans la gorge, deux plaies avec des trous dans les omoplates, et le bas du dos était complètement... Enfin, il n'existait plus, bah, du dos, on voyait le sacrum. Voilà. Alors, une semaine avant la réunion collégiale, on nous a quand même dit que mon papa ne présentait pas de symptômes d'inconfort et que ça nécessitait pas, son état ne nécessitait pas une augmentation des thérapeutiques. Je me demande comment on peut parler qu'il n'avait pas
de nécessité, oui. Mmh.
C'est juste un inconfort. Il avait un trou dans la gorge, un trou dans le menton, pas de bas du dos, mais selon eux, donc évidemment, ils le voyaient avec des draps sur lui, il n'avait pas d'inconfort. De toute façon. Une semaine après, donc réunion collégiale, là, ils ont vu l'ampleur des dégâts parce que quelqu'un avait pris des photos des escarres. Donc, ils l'ont mis sous sédation le soir même.
Oui.
3 jours après, il râlait toujours. Donc c'était un mercredi soir. Le samedi, ils ont posé une pompe à morphine. Donc là, à chaque fois qu'il râlait, nous, on mettait des bolus, c'est-à-dire que vous appuyez sur la pompe à morphine, ça remet une dose de morphine,
ouais,
voilà.
Ouais.
Et mon papa est décédé le mercredi suivant, deux jours avant son anniversaire. Donc il a passé une semaine sous sédation, en tout et pour tout. Pendant les six mois qu'on suivit, j'ai cru que c'était normal de décéder comme ça, quand j'avais voulu euthanasier mon papa. Et à force de recherche, je me suis rendu compte que bah non, c'était pas comme ça. Et on ne devait pas mourir de cette façon. Donc j'ai alerté les pouvoirs publics, l'État. J'ai alerté des associations. J'ai voulu faire passer mon message pour dire attention, pour comprendre ce qui s'était passé. Finalement, j'ai un petit peu compris ce qui s'était passé. Ce que j'en retire, j'ai discuté avec pas mal de médecins, de personnes qui s'occupent des fins de vie. Donc, il y en est ressorti qu'il y a énormément de manque de formation à la base chez les médecins qui sont formés pour soigner et qui ne sont pas spécialement formés pour accompagner le décès. À cette ambiguïté sur la loi Claeys-Leonetti, certains médecins ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, je ne sais pas, à quel moment brancher une sédation. Donc l'HAS a remis des petits liens en direct pour expliquer quand brancher une sédation. Je suis en ligne sur le site de l'HAS, ça a été fait en 2018, il me semble. Le problème au niveau des institutions étatiques qui ont mon dossier passe d'un service à l'autre, mais personne n'est en mesure de s'occuper de ce dossier, parce que selon une institution étatique, ça dépend du code médical, une autre, ça dépend du code judiciaire, mais c'est jamais à eux de s'en occuper.
Alors, à mon avis, c'était là.
Voilà.
Je pense que ce dossier va encore passer dans pas mal de mains, parce que on sent, lorsque vous nous racontez le dernier mois, hein, je dirais même les deux derniers mois de la vie de votre père, combien d'abord ce médecin était arrêté, hein, sur ses positions, et combien on sent qu'une partie des infirmières qui soignaient et qui avaient connaissance de la situation de votre père n'étaient pas d'accord avec les décisions de ce médecin. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la position de ce médecin qui respecte la loi. Et puis après, il y a le bon sens, le bon sens, le regard qu'on peut porter sur quelqu'un à qui qu'on a envie de soulager. On va marquer encore une petite pause et puis on se retrouve tout de suite et on va parler de cela, Stella, si vous le voulez bien.
Merci.
À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
23h28, vous êtes sur votre radio, sur Europe 1, c'est La Libre Antenne et nous évoquons avec Stella la fin de vie de son père et une fin de vie qui aurait pu bien évidemment être écourtée et on aurait pu là respecter le malade, la famille, et on parle encore de cet éternel débat autour du choix de la fin de vie, là où certains médecins sont beaucoup moins hypocrites que d'autres et eh bien, vont dans le sens de la famille. Là, Stella, vous nous expliquez que vous étiez tombée sur ce médecin qui ne vous avait pas du tout suivi et qui était dans la peur d'être dans l'illégalité. Et on a un SMS d'un auditeur qui nous dit que la Suisse n'a pas l'hypocrisie de la France et permet aux malades de partir avec dignité et sans souffrance. Et on est au cœur de cette discussion-là avec vous. Il y a cette loi que je ne connais pas très bien, hein. Je suis très franc avec vous, j'ai suivi de loin l'affaire de Vincent Lambert, c'est ça, de ce jeune homme avec ses familles, ces deux familles qui se déchiraient. Voilà, mon avis penche bien évidemment plus du côté du choix de fin de vie et du droit de disposer de sa propre vie comme on le désire, pour tout un tas de raisons. Mais voilà, vous avez affronté, c'est certain, une une situation horrible. Et puis, j'ai du mal à penser que voilà, vous arriverez au bout de la plainte, en tout cas que vous avez déposé, en tout cas du dossier.
Non, j'ai pas déposé.
Alors, vous avez, oui, vous, ça n'est pas une plainte. Vous avez, vous avez constitué un dossier pour alerter les pouvoirs publics.
Voilà, pour alerter les pouvoirs publics, les associations. Parce que ce que je voudrais rajouter également, c'est que quand on a vu comme ça se passait avec l'équipe d'HAD vers la fin, qui ne voulait pas brancher une sédation, on a refait appel à notre médecin de famille.
Oui.
Malheureusement, bah, on est obligé de garder l'HAD. Donc,
Pourquoi
Eh ben, on est obligé, enfin, si vous voulez, on ne pouvait pas refaire des dossiers pour avoir un autre lit médicalisé par la CPM. Enfin, mon papa était en train de mourir, donc on ne peut pas se lancer dans des autres démarches.
Alors, une autre auditrice vous pose une question au 739-21. Elle vous demande pourquoi ne pas avoir procédé à l'aide au suicide plutôt qu'en arriver là. Je suppose que c'est peut-être quelque chose qui vous a traversé l'esprit à l'époque, vu la souffrance que traversait votre...
J'ai pas compris.
En fait, une auditrice demande pourquoi vous n'avez pas, vous, procédé à, vous voyez, à mettre fin au jour de votre père avec... ça n'est pas quelque chose qui vous a traversé l'esprit, vu
non.
L'attitude de ce médecin, d'accord?
Non, du tout. Plutôt, peut-être pour moi, pour ma fin de vie, à moi, voilà, pas celle de mon
d'accord,
papa. Mon
d'accord.
papa était croyant, pratiquant.
D'accord.
Je n'aurais jamais pu lui faire ça. Moi, je voulais simplement
qu'il
arrête de souffrir et une fin de vie digne, pas être décédé, criblé de trous dans le corps et sans être sûr qu'il ne souffre pas. Et ça, il y a une loi qui le dit, qui le permet. Malheureusement, un médecin n'a pas respecté. Et quand notre médecin de famille a voulu augmenter la morphine, il a été menacé quand même d'être emmené au procureur de la République parce que le médecin de l'HAD ne voyait pas pourquoi il augmentait les traitements morphiniques. Voilà. À la fin, y a eu quand même la sédation. Et par rapport au dossier que j'ai envoyé aux institutions étatiques, je les ai envoyés beaucoup aux associations. Donc, évidemment, tout le monde est scandalisé. Hein. Tout le monde me dit qu'il y a encore des cas qui existent tels que le vôtre, malheureusement. Il y a des études là-dessus. J'ai fait partie d'un questionnaire. Une étude va sortir normalement le mois prochain. Concernant ces familles difficiles, parce que c'est encore le cas en France.
Où pourra-t-on prendre connaissance de cette étude?
Alors, a priori, c'est vraiment les gens qui ont participé au questionnaire qui vont la recevoir. Après, je ne sais pas si elle va être en ligne. C'est le Centre national de la fin de vie.
D'accord.
C'est ça s'appelle sur le site internet Parlons de fin de vie. Et il y a pas mal de choses, justement, le site Parlons de fin de vie. C'est abrégé le CNSCS, quelque chose comme ça. C'est Parlons de fin de vie. Voilà. Mmh. Et ils expliquent pour faire les directives anticipées, les droits des patients, la loi Claeys-Leonetti. Voilà, ils expliquent beaucoup de choses. Et il y a quand même des associations qui défendent les soins palliatifs. Il y en a une qui m'a convoquée à Paris. On a rédigé avec quelqu'un de l'association un article qui devait être publié dans leur revue. Donc j'ai été soumise à un médecin du conseil d'administration pour présenter mon article. Et ça a duré 2h30. Au bout de 2h30, ce médecin m'a dit, mais la procédure, c'est pour ça que je vous ai parlé de protocole, parce que la procédure a été respectée, voilà. Votre papa a eu la sédation, certes au bout de 2 mois, mais il l'a eu. Et mon article n'a pas été publié parce qu'il m'a parlé du mot d'automatisme des médecins. Et il n'a pas voulu heurter les convictions de ses collègues. Et il m'a proposé la lecture d'un livre de Simone de Beauvoir, Une mort si douce ou si lente. Et il m'a dit que je ne changerais pas les lois. C'était comme ça il y a 30 ans.
Oui, oui. C'est ce pourquoi.
Donc, je me dis que si les gens mouraient sans souffrance, on n'aurait peut-être pas de débat euthanasie. Et quant à la question de la Suisse, une infirmière de l'HAD m'a dit « Quand vous avez su que votre papa avait la maladie de Parkinson, vous auriez dû l'emmener en Suisse. » Donc je trouve ça un petit peu déplacé.
Oui, complètement, complètement. En tout cas, on voit combien il est compliqué de faire avancer les médecins
voilà.
dans des...
Les mœurs.
Voilà, les mœurs, mais aussi, j'ai envie de parler de médecins aussi, dont certains qui sont confrontés à ce type de fin de vie sont beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus arrangeants. Hein. On ne va pas se mentir, ça n'est pas la première fois que j'entends parler de ce type d'attitude. Et puis aussi, j'ai entendu parler de médecins qui sont tout à fait dans un accompagnement de la famille et bien évidemment un pacte de respect du malade, les unis.
Et de la famille, et d'accompagnement.
Oui,
unis
la famille et le médecin, bien évidemment, c'est ce que je vous dis, c'était là, c'est que ce pacte, il unit la famille et le médecin, bien évidemment, pour que ce médecin soit en confiance et ne pense pas que la famille va ensuite se retourner contre lui. Et donc, bon. Mais c'est un vaste débat. Je pense que nous allons avancer.
C'est un gros débat, mais après le décès, personne ne nous accompagne. C'est terminé. Alors que les gens qui passent sur des soins palliatifs, puisqu'en même moment, j'avais mon petit beau-frère qui était en train de décéder en soins palliatifs.
Oui.
Donc, vous voyez bien comment ça se passait en soins palliatifs. C'est strictement rien à voir. Donc, il vaut mieux avoir les bonnes personnes au bon moment. Et moi, je demande qu'à toutes les fins de vie, ça soit des personnes de soins palliatifs qui accompagnent les gens, parce que des gens de soins palliatifs qui sont formés, qui accompagnent le mourant, la famille. Voilà. Et ça se passe pas du tout. Enfin, ça se passe complètement différemment. Le problème, c'est qu'il y a, et ça c'est un autre débat, énormément de manque de lits en soins palliatifs, parce que mon beau-frère avait une quarantaine d'années et il ne pouvait pas rester longtemps en soins palliatifs parce qu'il n'y avait pas assez de lits en attendant le décès. Il ne pouvait pas être dans un autre service parce qu'il était trop jeune. Ça relève encore d'autres débats. Ça, c'est une autre problématique. Mais si les médecins étaient déjà mieux formés au départ, s'ils connaissaient cette loi, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec M. Clay, qui m'a dit effectivement, la loi est peut-être ambiguë, mais on ne devrait jamais arriver à des situations telles que la vôtre. C'est, quand il a vu les photos, il me dit c'est juste scandaleux. Enfin, je me demande, c'est tellement aberrant cette histoire que quand vous êtes. Le pire, c'est que si. Parce qu'on va tous décéder un jour ou l'autre, donc si on ne prend pas le temps d'y réfléchir, de faire nos directives anticipées, d'y penser, une fois que vous êtes. Comme moi, je me suis retrouvée en plein milieu du décès. Vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes en train de perdre votre papa. Vous le voyez avec des trous de partout dans le corps. Vous l'entendez gémir. Vous dites, mais on fait quoi ? Enfin, et vous êtes en conflit. Personne ne vous aide. La psychologue de l'HAD, au bout d'un mois, nous a proposé de l'emmener à l'hôpital parce qu'elle se demandait pourquoi il ne mourait pas plus vite que ça. Voilà, ils voulaient l'hospitaliser parce qu'ils en avaient déduit que le laisser à la maison... du coup, il se sentait dans sa famille et ben, il ne mourrait pas. Voilà.
Oui.
Et vous dites, mais.
On marche sur la tête.
Voilà, on marche. Enfin, j'ai pas de mots. C'est juste épouvantable.
Oui. Écoutez,
c'est inhumain.
Merci,
voilà.
Merci en tout cas d'avoir, voilà. d'avoir porté
c'est
votre
moi
témoignage.
Qui vous remercie beaucoup parce que vous êtes ma première radio et. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté mon témoignage.
Mais je vous en prie. Merci. Et ne lâchez rien, surtout. Parce que vous faites partie de celles et ceux qui vont faire avancer les choses encore et encore pour qu'on arrive enfin à ce qui s'appelle... Oui, mais il faut plusieurs petites gouttes pour faire un océan et pour qu'enfin on arrive à la dignité. Parce qu'il est question de dignité.
Voilà, la dignité, exactement, la dignité. Sauf que les associations de dignité vont vous répondre, parce que je les ai appelées justement durant les 2 mois, et on m'a répondu, la dignité, nous l'avons tant que nous vivons.
Mm-hmm.
Voilà. Donc il y a beaucoup
Mais vous
de
savez,
progrès à faire.
Toutes les croyances, toutes les religions inventées par les hommes pour justement se rapprocher, se sentir plus proche de Dieu... Et puis ces religions qui sont guidées souvent par la peur, hein, la peur de cette mort justement vers laquelle on se dirige tous. Voilà. En tout cas, je pense que vous faites partie de celles et ceux qui n'ont pas de leçons à recevoir à ce niveau-là. C'était là. Et j'en fais partie aussi, croyez-moi.
C'est pour ça que je vous ai contacté.
Je vous souhaite plein de courage et je vous souhaite une bonne nuit.
Merci.
Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.